franceinter.fr.
Le journal Yves Decamp, bonsoir.
Bonsoir. La réponse du berger russe à la bergère anglaise dans l'affaire Skripal après les sanctions limitées annoncées par le Royaume-Uni. Moscou va plus fort dans la riposte en supprimant notamment les activités du British Council. La législative partielle aura bien lieu à Mayotte demain. Des élus demandaient son report. Toutes les dispositions seront prises pour assurer le bon déroulement du scrutin, répond ce soir la préfecture. En sport, l'événement de la soirée, c'est en ce moment même au Millennium Stadium de Cardiff. Le 15 de France, mené 14-10 par le Pays de Galles à la mi-temps, mais les Bleus sont plutôt séduisants, Jérôme Val.
Oui, séduisant, mais beaucoup trop sanctionné dans cette première mi-temps. On attend beaucoup plus de ces Bleus. La deuxième période n'a pas encore démarré, mais vous l'avez dit, quatre petites longueurs de retard pour ces Bleus qui ont un gros coup à jouer quand même cet après-midi pour prendre la deuxième place du tournoi Destination.
On vous retrouve à la fin de ce journal pour faire le point. Un nouveau réseau de documentalistes sur Internet, réseau vivant de chair et d'os qu'a expérimenté Christine Siméon dans sa vie connectée. Et puis bien sûr la météo qui reprend ses habits d'hiver, de la pluie, de la neige et des températures en forte baisse. Une avalanche a fait 2 morts, 2 Français et 2 disparus en Suisse. Le plan grand froid a été réactivé en Île-de-France.
Inter.
23-23 entre l'Angleterre et la Russie, 23 diplomates expulsés de part et d'autre. La riposte de Moscou aux sanctions annoncées cette semaine à Londres ne se sera pas fait attendre longtemps. Dans l'affaire Skripal, l'ex-espion russe, toujours hospitalisé à Salisbury avec sa fille, le Kremlin, qui nie toute implication, a choisi d'aller plus loin que les Anglais, en ajoutant à l'expulsion des diplomates la suspension des activités du British Council, l'équivalent britannique de l'Alliance française. Ce qui ne change rien au fait, a déjà répondu le Foreign Office, à savoir la tentative d'assassinat de 2 personnes sur le sol britannique en violation flagrante du droit international. Une fermeté réaffirmée tout à l'heure par la Première ministre Theresa May devant le congrès du Parti conservateur. Marina Daras à Londres.
Theresa May s'est adressée aux membres de son parti et a réitéré la culpabilité de l'État russe dans la tentative d'assassinat de Salisbury, répétant que le Royaume-Uni n'a aucun désaccord avec le peuple russe et que c'est leur gouvernement qui viole le droit international et la Convention sur les armes chimiques. Elle a malgré tout insisté sur le fait que le Royaume-Uni ne tolérera jamais une menace à la vie des citoyens et résidents britanniques de la part du gouvernement russe ou de tout autre pays.
Because this act of Russian aggression...
Cet acte d'agression russe est l'antithèse même des valeurs libérales et démocratiques qui définissent le Royaume-Uni. La primauté du droit, la liberté d'expression, la tolérance des opinions dissidentes, une presse libre, des élections justes et démocratiques et une société civile prospère, ce sont les fondements de la liberté humaine que nous défendons.
Theresa May, qui est depuis plusieurs mois extrêmement affaiblie dans son pays par les négociations sur le Brexit, est désormais dans une position de force galvanisée par le soutien des pays alliés. Son bras de fer avec Moscou lui a permis de très sérieusement resserrer les rangs à Westminster. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
Parmi la riposte annoncée par Moscou également, l'ajournement de l'ouverture d'un consulat britannique à Saint-Pétersbourg. Resserrer les rangs, en tout cas, c'est également ce que recherchait Vladimir Poutine à la veille du scrutin présidentiel, où sa victoire demain ne fait aucun doute. Plus la tension monte vis-à-vis de l'Occident, plus il s'impose comme le bouclier d'une Russie assiégée. S'il n'atteint pas les 70% demain, comme le prédisent certains sondages, il n'en sera pas loin. Il faut dire que les conditions d'expression pendant la campagne électorale n'ont pas été faciles pour l'opposition, c'est le moins qu'on puisse dire. L'opposition russe, dont une partie dénonce l'attitude des médias officiels sous surveillance ou bien tout simplement complaisant. Bertrand Galichet.
Face à de grands médias publics ou privés qui relaient souvent le discours officiel, l'opposition s'organise pour faire entendre sa voix. À Nijni Novgorod, Yevgeny est en charge des réseaux sociaux pour le comité de soutien à Alexei Navalny. Y compris sur les réseaux russes, Vkontaktie et Adna Klasniki.
Depuis déjà un an, nous avons presque 5000 abonnés. C'est le groupe politique le plus important dans la ville de Nijni Novgorod. Il y a une demande pour des informations alternatives.
Vous considérez que ce que vous faites, c'est un contre-pouvoir par rapport aux médias officiels ?
C'est un contrepoids, peut-être pas aussi fort que l'on voudrait, parce que le public d'Internet est plus restreint que celui de la télé.
Sans oublier la presse écrite, très lue dans les milieux populaires, Andrei Vovk, journaliste, travaille pour l'édition régionale de Komsomolskaya Pravda. Je suis partiellement d'accord, notre presse libre est assez jeune. Elle a environ 30 ans, c'est peu pour la démocratie et la presse libre. Des journalistes qui disent ne pas recevoir de consignes, mais reconnaissent une certaine autocensure. Nijni Novgorod, Pierre Quintard, Bertrand Galichet, France Inter.
Dans la Ghouta orientale en Syrie, le même scénario qui se répète au quotidien, des milliers de civils qui continuent de fuir les bombardements du régime et le bilan des victimes qui s'alourdit. On parle ce soir d'une quarantaine de tués. Damas annonce avoir repris deux localités rebelles. Plus au nord, dans la région d'Afrin, où les Turcs ont porté le fer contre les Kurdes, ce sont plus de 200 000 personnes qui ont fui les combats depuis 3 jours. En mer Égée, c'est un bateau de migrants parti de Turquie qui a sombré au large de la Grèce. 16 de ses occupants, au moins, dont 5 enfants, se sont noyés. D'autres sont encore portés disparus. À Mayotte, des habitants qui font des rondes pour interpeller les étrangers et les amener à la gendarmerie. C'est dans ce contexte de vives tensions, après des semaines de blocages et de manifestations, qu'aura lieu demain une législative partielle dans la première circonscription, celle de Mamoudzou. Mayotte, où des élus, à l'exception notable du maire de Mamoudzou, justement, ont demandé ce matin le report de cette élection, en jugeant les conditions de sécurité très insuffisantes pour assurer les opérations de vote. Un constat que ne partage évidemment pas la préfecture, qui elle assure que toutes les dispositions seront prises pour un bon déroulement du scrutin. Sandrine Etouandeg.
Mayotte, c'est la République, c'est la démocratie, ce sont les citoyens qui s'expriment dans les urnes. C'est la réponse du préfet de Mayotte, Frédéric Vaux, à cette demande de report. Il l'affirme, l'État prendra toutes les dispositions pour assurer le bon déroulement du scrutin. D'ailleurs, des forces de l'ordre venues en renfort et les équipes de Lille présentes se tiennent prêtes à intervenir. Pour les élus, au contraire, les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Le vote ne peut pas se dérouler sereinement, même si les écoles et les mairies seront ouvertes. Il y a les barrages qui paralysent l'île et limitent les déplacements. Un risque de débordement, certains manifestants menacent de perturber le scrutin. Ils expliquent aussi que dans ce contexte de crise, les 8 candidats n'ont pas vraiment pu faire campagne. Si un bureau ne peut pas être ouvert, le code électoral permet de le déplacer à un autre endroit, répond encore le préfet. Dont acte, selon le porte-parole des élus, qui s'attendent, je cite, à recevoir une cascade de plaintes après l'élection. Un porte-parole du mouvement social, lui, invite les électeurs de la première circonscription à boycotter le scrutin. Mayotte, Sandrine Etouandeg, France Inter.
En politique également, tous différents et bien ensemble. C'est ainsi que se définissent les jeunes avec Macron, l'organisation de jeunesse de La République En Marche, qui tenait aujourd'hui sa première convention nationale. Le mouvement avait été lancé dès juin 2015 en soutien au ministre de l'économie de l'époque, qui n'avait pas encore lancé En Marche, ce qui s'appelle avoir du nez, et valait bien aujourd'hui à ses fondateurs la visite du Premier ministre et d'une bonne partie du gouvernement, Yannick Falt.
Le rendez-vous a lieu pavillon Baltard, ça ne s'invente pas, là où a été tournée la nouvelle star. Une nouvelle star devenue président et qui fait lire un message à Jean Gabory, l'un des fondateurs des JAM, les jeunes, avec Macron.
Cher JAM, ne perdez rien de votre enthousiasme, de votre engagement, de votre esprit critique, des valeurs qui vous ont conduit à vous lever, car jamais nous n'aurons le droit d'être assis. Avec mon amitié et ma reconnaissance, Emmanuel Macron.
Une dizaine de ministres sont dans la salle pour remercier les jeunes et leur mobilisation sans faille et se payer parfois Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, cible de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement.
Notre promesse, plus il n'y a pas de téléphone portable qui enregistre, c'est de toujours se parler cash, mais de ne jamais faire dans le bullshit. Parce que d'autres ont un tel talent que nous n'arriverions pas à leur cheville. Et ce serait un combat perdu d'avance.
4 heures de discours au total et un invité vedette pour clore l'événement, Édouard Philippe, pour une ultime note humoristique à cette ode à la Macronie.
Des jeunes avec Macron ? Mais quel âge ont-ils donc ? À 5 années près, notre président aurait pu être membre de votre mouvement.
Nogent-sur-Marne, Yannick Falt, France Inter.
Ah oui, les 4 fondateurs des jeunes avec Macron, tous issus du mouvement des jeunes socialistes, sont députés pour 2 d'entre eux. Les 2 autres travaillent l'un à l'Élysée, l'autre à la présidence de l'Assemblée nationale. Il y avait 14-10 à la mi-temps, le score n'a pas changé. Ce sont des Français plutôt séduisants qui se montrent au Millennium Stadium de Cardiff face au Pays de Galles. Et c'est peut-être le plus important, Jérôme Val, le 15 de France montre du beau jeu.
Oui, terminé en beauté hein, ce tournoi des Six Nations qui avait été mal démarré avec ses deux défaites consécutives. Et puis c'est vrai que les Bleus surfent peut-être aussi sur leur succès face à l'Angleterre il y a une semaine. Vous l'avez dit, le score 4 points d'écart, 14 à 10 pour ces Gallois qui ont marqué les premiers avec un essai de Liam Williams qui a répondu à un drop de François Trinduc. Il y avait rapidement 8-3 puis 11-3 avec des pénalités de Alf Penny. Et puis l'essai de Gaël Ficou à la 22e minute de jeu a redonné des couleurs à ces Bleus. Très très belle action conclue par l'ailier du Stade Toulousain. 14 à 10 donc à la poste. Ça n'a pas bougé pour l'instant, même si les Français là pour l'instant sont aux avant-postes proches de la ligne des 22 mètres. Vous le savez, l'enjeu il est simple après les victoires de l'Irlande en Angleterre et de l'Écosse en Italie. L'enjeu pour les Français c'est de terminer à la deuxième place de ce tournoi destination, ce qui ne serait pas si mal hein, vu comment ce tournoi avait démarré. Les Français qui doivent pour cela s'imposer. Il va falloir encore cravaché durant les 33 minutes qui restent à jouer ici au Millennium de Cardiff. 14 à 10 pour le Pays de Galles face à la France.
À noter que les joueurs français du Grand Chelem de 68 ont été invités à ce match. C'était le premier Grand Chelem des tricolores. Parmi eux, Cambéra, Béraud, Gachassin, Mazot, Villepreux et d'autres que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, évidemment. Un Grand Chelem que les Irlandais ont donc parfaitement réussi en battant les Anglais tout à l'heure, 24 à 15 à Twickenham, s'il vous plaît. En rugby, toujours se disputait aussi cet après-midi le derby parisien du top 14. Victoire du Racing à Nanterre face au Stade français 28 à 22. Et puis en Ligue 1, victoire de Rennes à l'instant à Bordeaux, 2-0. Les Rennais provisoirement 5e. Une place importante évidemment dans la course à l'Europe. En cyclisme, la victoire de l'Italien Vincenzo Nibali dans le Milan-San Remo. C'est la première grande classique de la saison. Pas fatigué, Martin Fourcade, après ses 3 titres au JO, il a remporté la poursuite d'Oslo en creusant encore un peu plus l'écart en tête de la Coupe du Monde. Chez les dames, un beau cadeau de départ pour Marie Dorin. En biathlon également, les Françaises ont remporté le relais d'Oslo, comptant pour la Coupe du Monde. C'est leur deuxième succès cette année devant l'Allemagne. Et c'était le dernier relais de sa carrière pour la doyenne des Bleus, Marie Dorin, dont la relève semble parfaitement assurée. Enfin, en ski alpin, nouveau podium également pour Victor Muffat-Jeandet, troisième du slalom géant d'Ere en Suède. C'est son deuxième podium cette année, battu bien sûr par les inévitables Hirscher et Christoffersen. Allez, direction le Salon du Livre à Paris. C'est jusqu'à lundi soir, porte de Versailles, des auteurs, des éditeurs de tous les pays, notamment de Russie, invités d'honneur du Salon cette année. On y trouvera des livres, bien évidemment, des écrivains, des lecteurs, mais aussi des bibliothécaires, et notamment des bibliothécaires virtuels. Bonsoir Christine Siméon.
Bonsoir Yves.
Dans votre vie connectée, vous en avez probablement rencontré sous forme d'hologramme peut-être.
Bah hologramme non, alors mais des têtes chercheuses qui voudraient bien faire aussi bien que les algorithmes justement. Je m'explique. Pour la première fois, est représenté au salon cette année Eurequa. Eurequa, absolument. C'est un réseau très vivant, sur pied, en chair et en os, de documentalistes et de bibliothécaires de bibliothèques municipales. Mais c'est aussi, et là où c'est, ça devient un peu virtuel, c'est une plateforme, eurequa.org, plateforme sur laquelle poser toutes vos questions en ligne.
Alors on a déjà Google pour ça, non?
Oui, alors d'abord Yves, je vous avais déjà un peu suggéré éventuellement de changer votre moteur de recherche.
Ah, hein, moi c'est Quant, moi.
De varier les plaisirs.
Franco-allemand.
C'est vrai, très bien. C'est vrai que si vous êtes habitué à chercher sur le net, vous arriverez probablement à vos fins, sur Quant ou sur DuckDuckGo par exemple. Mais l'art de la recherche quand même, ça s'apprend. Écoutez Sylvère Mercier, le pilote de Requa.
C'est vrai que la plupart des gens peuvent peut-être trouver une réponse très efficace sur Wikipédia à un problème donné. Et dans ce cas-là, ils n'auront pas besoin de nous pour avoir cette réponse. Cela dit, il y a plein de questions dont on ne trouve pas facilement la réponse, que ce soit des questions où on cherche une qualité de réponse particulière, où on veut faire des comparaisons, on cherche un chiffre extrêmement précis, où on veut avoir on a des questions qui sont extrêmement variées et qui sont bien au-delà d'une simple recherche sur un moteur de recherche. Ah.
Alors, Eurequa peut vous aider à retrouver votre grand-père poilu, par exemple, parce qu'il s'est vraiment allé chercher dans les services des archives départementales, ce que vous ne savez pas forcément. Vous dire quelle est la différence entre la graine de couscous et la semoule.
Ah oui, c'est quoi?
Je vous laisse réviser sur eurequa.org. Quelle est la différence entre un roi et un empereur? Et par exemple, quand est-ce que Yves de Caen a commencé sa carrière? Pardon pour le méli-mélo grammaticale. La réponse arrive sous forme de synthèse par courriel dans les 72 heures avec une bibliographie.
Alors Eureka et d'autres solutions donc de ce type comparées aux moteurs de recherche, et c'est à retrouver sur franceinter.fr. Merci Christine Siméon. On reste à Paris pour passer la soirée en musique. Suite et fin ce soir du 3e festival Paris Musique, des concerts comme s'il en pleuvait ou s'il en neigeait, dans des lieux plus ou moins insolites, des bibliothèques, des musées, des hôtels. Dick Engarn par exemple sera tout à l'heure au théâtre du lycée Jacques Decourt, Pierre Sfaccini à l'hôtel de Lauzin, et la jeune Aloïs Sauvage à la bibliothèque historique de la ville de Paris, Mathieu Culeron.
Les visages transpirants.
C'est la jeune artiste dont tout le monde parle. Danseuse, slameuse, comédienne, elle a notamment joué dans le film 120 battements par minute. Aloïs Sauvage fait tout en même temps et commence la musique par hasard.
J'ai commencé vers 7-8 ans par la flûte traversière. Un vrai choix personnel de ma part avec ma cousine. On avait vu un concert de musique irlandaise et on est tombé... Red dingue du soliste qui avait une flûte traversière et on s'est dit qu'on allait faire de la flûte traversière. Aussi simple que ça.
Aloïs Sauvage n'a pas encore sorti d'album et déjà les maisons de disques s'affolent. Une précipitation qui a même tendance à faire peur à la jeune artiste.
J'ai envie de le vivre avec sérénité. Après, c'est arrivé très très vite. Donc forcément, quand c'est dans les extrêmes comme ça, ça c'est à la fois très excitant et très effrayant. Enfin, j'évolue aussi dans des spectacles de cirque, de danse. Là, il tournait beaucoup. Et puis, il y a aussi la sortie du film 120 battements par minute, dans lequel je joue également. Donc, c'était un espèce de timing où on voyait Aloïs Sauvage partout. Donc, j'ai eu peur au départ que ce soit un effet de buzz. Mais bon, j'en attendais pas tant.
Aloïs Sauvage en concert ce soir à la Bibliothèque historique de Paris, dans le cadre du Festival Paris Musique.
J'expire dedans, futé, futé, quitté. L'utilité, l'utilité de quoi, de toi, de moi, de la foi.
Des voilà, on sait où Mathieu Culeron va passer la soirée. L'hiver n'a pas dit son dernier mot, Jean-Michel Golinski va nous le confirmer dans un instant, au point que le plan grand froid a été réactivé à Paris, 850 places d'hébergement supplémentaires ouvertes ce samedi. La neige également fait son retour, la neige qui reste dangereuse. Une avalanche hier dans le Valais en Suisse a fait 2 morts, 2 Français et 2 disparus, dont un autre Français. Le porte-parole de la police cantonale valaisanne au téléphone de Patrick Janton.
Cette avalanche s'est déclenchée en milieu d'après-midi d'hier. Elle s'est déclenchée à une altitude d'environ 2200 mètres pour se terminer à 1900 mètres d'altitude. C'est une avalanche assez grande puisqu'elle mesure 400 mètres de long. Il y a plusieurs mètres de hauteur de neige là où les personnes sont recherchées. Nous avons actuellement toujours 2 personnes portées disparues. Une personne a été retrouvée durant la nuit écoulée et puis une deuxième personne a été retrouvée durant cette journée. Les conditions sont, au niveau météorologique, elles ne sont pas bonnes du tout. Il pleut, c'est le brouillard, donc les hélicoptères n'ont pas pu voler. Cependant, les sauveteurs et la police se sont rendus sur place en ratraque et n'ont pas cessé les recherches durant toute la journée.
Voilà, un retour du froid qui inquiète aussi les producteurs de fruits et légumes. Après les températures printanières de ces derniers jours, le chaud et froid pouvant être source de stress pour les plantes s'il devait se prolonger, bien sûr. Des fortes chutes de neige qui sont tombées en région parisienne et dans le nord et qui ont provoqué également d'importants bouchons cet après-midi et ce soir au nord de la capitale, notamment jusqu'à 134 km de bouchons dans l'Oise, le Val d'Oise et la Somme, sur l'A16, l'A29 et l'A1. Des problèmes également à l'est sur la 4 entre Metz et Verdun. Voilà, un dernier coup d'œil sur le match Pays de Galles-France et les Français qui se rapprochent 14 à 13 à 25 minutes maintenant de la fin du match.
Merci à vous Yves Decamp. Donc tout de suite les prévisions météo de Jean-Michel Golinski de Météo France.
La météo avec Bleu Forêt, fabricant français de collants, chaussettes, soquettes en matière naturelle. Coton, fil d'Écosse, soie, laine, uni ou en dentelle, rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Le froid gagne du terrain avec cette nuit des gelées de 0 à moins 4 degrés du Lyonnais au nord-est et du nord de la Loire à la Belgique, avec parfois sur ces régions des sols blanchis par la neige au lever du jour. En journée, les maximales, à l'abri du vent de nord-est sensible, ne dépasseront pas 2 à 4 degrés en général sur une large moitié nord du pays. Il est prévu 7 en Rhône-Alpes, 12 et des Charentes au sud-ouest, 14 degrés sur le bassin méditerranéen avec des éclaircies durables du golfe du Lion à la Provence, un ciel lumineux du Val-de-Loire aux côtes normandes et au nord de la Somme, et un temps souvent incertain, ponctué d'averses sur le reste du pays, des précipitations encore sous forme de neige possible l'après-midi entre la Champagne, la Bourgogne et les frontières de l'Est.